Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Ce matin, le Seigneur, je le sais et je le crois, mais c'est aussi chaque fois, mais le Seigneur veut vraiment parler à notre cœur. Et je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu ce matin. Le titre du message, je l'ai intitulé « La grâce, c'est invité ». La grâce, c'est invité. Je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous est arrivé de venir voir, de venir arriver chez vous quelqu'un qui s'invite sans que vous l'ayez invité? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais. Quelqu'un qui s'invite. Bien, ce matin, on va parler de la grâce de Dieu qui s'est invitée, même si on l'a pas appelée, si on l'attendait pas, la grâce de Dieu s'est invitée. Et on va le voir au travers d'un récit, d'une histoire, au travers de l'histoire d'Abraham. Et je commence, donc vous pourrez garder votre Bible ouverte dans le livre de la Genèse. On va parcourir plusieurs textes ce matin dans ce livre. Genèse 11, verset 26, il est écrit « Après avoir atteint l'âge de 70 ans, Terah eut 3 fils, Abraham, Nahor, Haran. » Une histoire singulière, un papa qui a 3 fils, Abraham, Nahor, Haran. Verset 29, Abraham épousa Sarai. Ça arrive que les fils épousent, se grandissent, ils épousent quelqu'un. Nahor épousa Milka, et fille de Haran, et Haran était le père d'Iska. Donc il raconte, comment était le papa, il a eu 3 fils, les fils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Verset 30, Sarai n'avait pas d'enfants, elle était stérile. Verset 31, Terah emmena son fils Abram et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il emmena aussi sa belle-fille, Sarah, femme d'Abraham. Il quitta avec eux Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils voyagèrent jusqu'à Haran et ils s'y installèrent. Là aussi, rien de particulier. Ça arrive qu'on déménage dans la vie. Et donc, ce papa, Terah, avec son fils, sa belle-fille, Lot, le neveu, donc, déménage et s'installe dans la région de Haran. Verset 32, après avoir vécu 205 ans, Terah mourut à Haran. Donc voilà, le papa de Abraham meurt. Est-ce que si vous regardez juste ça, c'est les seuls éléments qu'on a jusqu'à présent de la vie d'Abraham, est-ce que vous voyez une raison particulière pour la grâce de Dieu de s'inviter dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attirerait vos regards ou qui vous donnerait envie de venir chez Abraham? Pas spécial, peut-être, moi, si vous avez un peu de compassion, la compassion parce que sa femme est stérile, ça c'est dur, donc ça me donnera envie d'aller le consoler. Mais autrement, c'est un homme somme toute un peu, c'est notre vie, c'est notre vie à nous. C'est notre vie à nous, jusqu'à ce que la grâce de Dieu va s'inviter. Et on passe au chapitre 12. Chapitre 12, je lis à partir du verset 1er. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Cet homme, Abraham, tout d'un coup, voit la grâce de Dieu débarquer chez lui, la grâce de Dieu s'inviter chez lui, faire irruption dans sa vie. Et Dieu vient à Abraham et vient à lui avec des merveilleuses promesses pour son pays. De merveilleuses promesses à nous rendre tous jaloux ici, si on avait nos yeux voilés. Dieu vient vers Abraham et lui fait ici quatre promesses. La première, je ferai naître de toi une grande nation. Je ferai naître de toi une grande nation. On peut le dire ensemble, je ferai naître de toi une grande nation. Encore une fois, je ferai naître de toi une grande nation. Il en a des bonnes, le Seigneur, hein. Il vient dans la vie d'un couple qui est stérile, et puis il dit, et lui, le père, il a 75 ans, hein. La femme est stérile, et il dit, il vient vers lui, la grâce, sans se faire inviter, vient, et dit à cet homme et à cette femme, je ferai naître de toi une grande nation. Seigneur, je pense que tu t'es trompé d'adresse. Chez moi, c'est stérilité. Alors, tu as dû te tromper, papa. Mais Dieu, il donne une deuxième promesse. Je te bénirai. Ça, c'est sympa. Troisième promesse. Je rendrai ton nom célèbre. Abraham, c'était un inconnu. Hein. Personne n'avait entendu parler de lui, Abraham. C'était pas encore Abraham. C'était un illustre inconnu. Je rendrai ton nom célèbre. Ben, dis donc. Seigneur, je sais pas s'il est en campagne électorale ou quoi, mais il m'en fait des promesses aujourd'hui. Et il en rajoute encore. Quatrième promesse, tu seras une bénédiction pour les autres. Et à travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Ah ben, il en a de bonnes, le Seigneur. À travers moi, tu vas bénir toutes les nations de la terre. Mais Seigneur, tu te fiches de moi ou quoi? Qu'est-ce qui me tombe du ciel d'un coup? Que Dieu m'apparaît, je suis un homme ordinaire, normal, et puis Dieu me fait des promesses incroyables. Peut-être il a besoin de ma voix. Peut-être il a besoin de mon vote. Je sais pas qu'est-ce que vous répondrez si tout d'un coup la grâce s'invitait chez vous, puis vous vous dites, vous promettez des choses pareilles. Je sais pas qu'est-ce que vous direz, ah, tous des menteurs. Tous des menteurs. Et quelle a été la réponse d'Abraham, verset 4? Abraham, qui était âgé de 75 ans, accepta de quitter Haran comme le lui ordonnait le Seigneur. Il prit avec lui sa femme Sarai, son neveu Lot, ils emportaient toutes leurs richesses et emmenaient les esclaves achetés à Haran et se dirigèrent vers le pays de Canaan. Mais mon pauvre Abraham, Abraham, t'es fou? Tu vas quand même pas croire ces promesses. Imagine ce qu'on te promet. Est-ce que tu as imaginé ce qu'on te promet? Que Dieu va faire naître de toi une grande nation, toutes les nations de la terre seront bénies par toi? Et t'arrives à y croire et tu te mets en route. Ah ben ouais. La grâce s'est invitée et Abraham, il a cru. Il a cru aux promesses de Dieu et s'est mis en chemin. On voit la suite, donc chapitre 12, verset 5. Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan, ils le traversèrent jusqu'au chêne sacré de Morée à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitaient la région. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Il lui avait fait déjà quatre promesses, mais incroyables. Abraham a cru, il a fait ce que Dieu a dit, il s'est mis en route pour Canaan, il y arrive, et Dieu lui sort une cinquième promesse. Je donnerai ce pays à ta descendance. Ben dis donc, il est gâté Abraham, toutes ses promesses. Et puis un peu plus loin, on va voir Genèse chapitre 13. Je lis les versets 14 à 17. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Donc il renouvelle la promesse, ce pays il est pour toi et pour ta descendance à toujours. Verset 16. Il va rajouter une sixième promesse, verset 16, je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Il dit à un homme qui a 75 ans et sa femme est stérile, je rendrai ta descendance si nombreuse que personne ne pourra la compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le pays. Verset 17, va, parcours le pays de long en large, car c'est à toi que je le donnerai. Vous êtes tous d'accord, la grâce s'est invitée chez Abraham. Je sais pas comment vous aurez réagi, vous. Comment vous aurez réagi si vous receviez tout d'un coup Dieu vient et il vous fait ces cinq promesses. Je ne sais pas si vous imaginez. Je vais faire naître de toi une grande nation, Pierre-Nicolas. Je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre. Tu ne seras une bénédiction pour les autres à travers toi. Je bénirai toutes les nations de la terre. Et un pays, ce pays, et tu peux aller, il est grand, je le donnerai à ta descendance. Pierre-Nicolas, comment t'aurais tant de promesses? Qu'est-ce que t'aurais dit? Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, Seigneur. Abraham, il a dû dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, comme on dit aujourd'hui, pour qu'il arrive vers moi avec tant de largesse? Et puis nous, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout ça, Seigneur, Abraham? Alors je sais que c'est là où Dieu veut nous parler ce matin. Tous ont pensé, ah, il y a des choses qui ne doivent pas être écrites dans la Bible. Abraham, il devait être quelqu'un de très, très particulier. Donc vraiment, Dieu, il a vu et il va le récompenser en donnant toutes ses bénédictions. Qui d'entre vous pense que tous ces bienfaits, c'est une bénédiction méritée, c'est pour payer le salaire à Abraham par rapport à toutes les bonnes choses qu'il avait faites? Qui c'est qui pense ça? Que c'est une récompense? Eh bien, je vais vous dire, quand on regarde bien de près, Abraham, c'était un homme comme vous et moi. Si vous ne le croyez pas, c'est la Bible qui le dit. C'est Abraham qui a reçu toutes ses promesses. On pourrait dire, ben dis donc, hein, il est dans les petits cartons du Seigneur. Ça doit être une élite, hein, ça doit être vraiment quelqu'un. Ben le voilà, après qu'il a reçu ses promesses, il est écrit qu'au chapitre 12, verset 10, il y a une famine dans le pays. Elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps. Et au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Sarai, « Écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme. Ils me tueront et te garderont en vie. Alors dis-leur que tu es ma sœur, afin qu'on me traite bien à cause de toi. Grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Il est bien, hein, cet Abraham. Hein. Ah, super. Hein. Ma femme, t'es ma sœur. Ce qu'ils font à toi, je m'en fiche. Mais à moi, au moins, grâce à toi, j'aurai la vie sauve. J'ai envie de les bénir, les lâches comme ça. Il méritait d'être toutes ces bénédictions. C'était vraiment un gars bien, hein, vraiment honnête, hein, clean. Ben, il te ressemble, hein, il me ressemble aussi. Ouais. C'est un gars capable de l'acheter. Mais aussi, c'est un gars capable de bravoure. Quand il apprend que Lot, on est venu pour prendre son territoire, il est allé le défendre, Lot. Pourtant, il n'était pas sympa, Lot. Il avait chippé la meilleure partie, apparemment, de l'héritage. Donc, on voit qu'Abraham, il avait rien de si extraordinaire que ça. Il était capable de malhonnêteté, il était capable de bravoure. Et puis aussi, même sa foi, elle n'était pas comme on l'imaginerait, sans aucun doute. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 3. Genèse 15, versets 1 à 3. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur, je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose ?» Tout d'un coup, Abraham, il se fâche, mais il dit à Dieu, « Ouais, tu m'as fait que me promettre plein de choses, c'est sympa. » Mais à quoi bon? Ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive, Abraham? Et il dit, je suis sans enfant. Tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Éliézer de Damas, un de mes domestiques. Est-ce que c'était un champion de la foi? Tout d'un coup, il se dit, Dieu m'a fait des promesses. J'aurai une descendance aussi nombreuse qu'on ne pourra pas la compter, etc., etc. Et puis, quand j'y réfléchis bien, tout d'un coup, il se dit, mais attends. Je suis en train de me faire embarquer dans un délire, là. Celui qui va hériter de moi, c'est pas mes enfants, j'en ai aucun. C'est mon serviteur, c'est mon domestique. Donc on voit que sa foi, elle a aussi des questions. Et Dieu, verset 4, il va dire, non, dit le Seigneur, c'est pas lui qui sera ton héritier, c'est un fils né de toi. Oh, il répète, non, c'est un fils né de toi, alors que sa femme est stérile et que lui, il a passé 75 balais. Verset 5, puis il fit sortir Abraham de sa tente et il lui dit, regarde Abraham, le ciel compte les étoiles si tu le peux. Et il ajouta, comme elles, tes descendants seront innombrables. Mais il doit se dire, mais Dieu, il a vraiment dit ce qu'il disait. Hein. J'ai pas rêvé. Hein. Il me disait comme les grains de sable de la mer, maintenant comme les étoiles dans le ciel, et que c'est un enfant né de moi, et ces peuples naîtront d'un enfant né de moi. Et Dieu, il y croit vraiment à ses promesses, lui. Hein. Et puis, on va avoir chapitre 15, verset 6. Quelle est la réponse d'Abraham? Même si il était quelqu'un qui avait cru au début, après on voit qu'il a un peu de doute, quand il lui répète, mais non, regarde le ciel, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Je sais pas, toi, Pierre-Nicolas, j'étais dans le collimateur ce matin, mais ta femme serait stérile, t'as 75 ans, et on te dit que tes enfants, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Ce serait un peu dur, hein. Eh ben, regarde bien, Pierre-Nicolas, verset 6, Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Et il s'est remis sur les rails de la foi. Abraham s'est remis sur les rails, il croyait, ah, j'avais bien compris, j'ai eu un petit doute, mais c'est vrai, je le crois, Seigneur. Et Dieu a vu la foi dans son cœur, la foi dans un homme ordinaire comme vous et moi, mais qui croyait des promesses incroyables, qui se mettait à croire des promesses incroyables. Maintenant, le fait qu'il ait la foi, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'avait pas des questions. On va voir verset 7, donc Genèse 15, verset 7. Il a une petite question à poser au Seigneur. Il lui dit, Dieu dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en propriété ce pays où tu es. Donc c'est pas simplement un fils, des descendants aussi nombreux que le sable et que les étoiles, mais aussi ce pays où tu marches, je le donnerai à ta descendance. Et il a une petite question. Il dit au Seigneur, Seigneur Dieu, demanda Abraham, comment pourrais-je être sûr que je posséderai? Je pense que Pierre-Nicolas, il dirait ça au Seigneur, non? Seigneur, c'est tellement incroyable, comment je peux être vraiment sûr que ces promesses, tu les accompliras? Et puis là, Dieu va faire quelque chose d'incroyable en plus des promesses. Verset 9, le Seigneur lui dit, amène-moi une génisse, une chèvre, un bélier de 3 ans chacun, une tourterelle et un pigeon. Abraham amena ses animaux, il les partagea par le milieu, à l'exception des oiseaux, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Des vautours s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de préparer une cérémonie d'alliance. À cette époque-là, quand on voulait faire une alliance qui était sûre, marquée par une cérémonie qui l'officialise, on prenait des animaux, on les coupait en deux, on les mettait de chaque côté, et ceux qui faisaient alliance passaient au milieu. Et quand ils passaient au milieu, c'était un signe d'engagement. Si je respecte pas ma parole, zip, on me fait comme ces animaux. Donc, celui qui passait au milieu s'engageait à tenir ses promesses. Donc, il dit à Abraham, voilà, tu doutes, comment suis-je sûr que ça se passera vraiment? Ben, Dieu lui dit, prépare un rituel pour une alliance. Verset 12, au coucher du soleil, donc là, c'est d'abord les vautours qui veulent passer au milieu, mais eux, on fait pas alliance avec les vautours, il les chasse. Verset 12, au coucher du soleil, Abraham tomba dans un profond sommeil, une grande sombre terreur s'empara de lui. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. Quant à toi, tu mourras en paix, tu seras enterré après une heureuse vieillesse, tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car les Amorites n'ont pas encore dépassé les mesures dans leurs crimes pour que je les chasse. Verset 17, quand le soleil fut couché, l'obscurité complète, soudain, un brasier d'où s'échappaient flammes et fumée passa entre les moitiés d'animaux. Pierre-Nicolas, tu pensais qui passait entre les animaux ce soir-là, cette nuit-là? C'était qui ce feu qui passait au travers des animaux? C'est Dieu. C'est une manifestation, une théophanie, une manifestation de la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu a promis, il dit comment je peux être sûr? Il dit tu veux vraiment être sûr? Ben je vais faire une cérémonie d'alliance. Et Dieu, au milieu de la nuit, passe au milieu des animaux. Et il n'est pas dit que Abraham a pas ça, c'est Dieu. C'est moi je fais alliance, si toi de ton côté tu passes aussi et tu tiens tes promesses, alors je les réaliserai. Il passe seul. Ça veut dire les promesses que j'ai faites, c'est pas en dépit de performances, je les ai. Je vais les faire parce que je t'aime et je m'engage à les accomplir. Et après, il est dit, verset 18, ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. il lui dit, à tes descendants, je donne ce pays, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve, c'est le territoire des Kénites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites, des Périsites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Guirchaïtes et des Jébusites. La grâce est invitée chez un homme, Abraham. Il lui fait des promesses incroyables. Abraham croit, il se déplace, sa foi a des hauts et des bas, mais il croit. Et à un moment, il pose une question, comment je peux être vraiment sûr? Et Dieu fait une cérémonie d'alliance pour garantir que ses promesses s'accompliront. Maintenant, si vous avez bien lu comme moi, les promesses de Dieu s'accompliront en leur temps. Abraham, tu peux être sûr que ce que je t'ai dit s'accomplira. Maintenant, c'est pas pour tout de suite. Il y aura 400 ans à attendre avant que tes descendants possèdent ce pays. Et Abraham va mourir sans voir de ses yeux la réalisation de sa promesse. Mais la promesse est oui et amen. Maintenant, on passe Genèse chapitre 16. Je pense que dans le couple, ils parlaient, ils communiquaient, Sarai et Abraham. Et puis donc, Abraham, il a parlé de toutes ses promesses à sa femme. Puis sa femme, elle voit rien venir, toujours pas enceinte. Elle se dit, il y a un hic. Peut-être Dieu, il est pas trop en forme en ce moment-là. Faudrait peut-être lui donner un petit coup de pouce. Genèse chapitre 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Sarai dit à son mari, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je ne pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. Abraham accepta la proposition de Sarai. C'est difficile de croire des promesses aussi incroyables, surtout quand elles se mettent pas en route. Parce que Dieu a un temps pour chaque chose et il a une façon de faire pour chaque chose. Et quand on attend et que la promesse tarde, on a envie de prendre les choses en main. Et c'est ce qui va se passer. Abraham, tout d'un coup, lui le champion, le héros, on voit qu'il a aussi des failles dans sa foi parce que tout d'un coup il se dit peut-être, j'avais mal compris pour la descendance et pas au travers de mon serviteur, mais peut-être j'ai mal compris la vraie promesse et peut-être au fait c'est pas au travers de Sarah, bien qu'il lui avait dit, mais au travers de ma servante parce qu'elle est associée à ma femme. Et puis on va voir Genèse chapitre 17. Après avoir fait ça, comment Dieu réagit? 17, verset 1. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut une nouvelle fois, lui déclara, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis toujours en ma présence, sois irréprochable. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. » Abraham se jeta le visage contre terre et Dieu reprit, « Voici à quoi je m'engage envers toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une foule de nations. On t'appellera plus Abraham, mais Abraham, qui veut dire père d'une multitude, car je ferai de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Je t'accorderai un si grand nombre de descendants qu'ils constitueront des nations. Il y aura même des rois dans ta postérité. Je maintiendrai mon alliance avec toi, puis après toi, avec tes descendants de génération en génération pour toujours. Et ainsi, je serai ton Dieu et celui de tes descendants. » Après toi et à toi, à tes descendants, je donnerai le pays où tu séjournes en étranger, tout ce pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous pensez? Dieu, il est persévérant dans son amour. Il est persévérant dans ses promesses. Ça fait je sais pas combien de fois qu'il répète à Abraham, mais le temps passe, faut dire que le temps passe et rien ne semble venir, mais il répète à Abraham, Abraham, continue de croire. Il lui redit ses promesses. Il lui redit ses promesses. Maintenant, c'est difficile, c'est facile à croire quand les choses se mettent en place vers la réalisation des promesses. On vous fait une promesse et puis vous voyez que le schmilblick, il avance, on dit, ah ben, ça va y aller là. Est-ce que vous pensez que le schmilblick, il avançait pour Abraham? Il avançait ou il reculait le schmilblick? Il avançait? Ben, je vais vous dire, la première fois que Dieu lui a fait la promesse, alors que lui, c'était un couple stérile, je ferai naître de toi une grande nation, elle sera aussi loin. Il avait quel âge? Il avait 75 ans. Maintenant, il lui redit, et il a quel âge? 99 ans. Le bonhomme, il a 25 ans de plus. Pensez que le schmilblick, il a avancé ou il a reculé? Ben, il a sérieusement reculé, hein, parce que déjà 75 ans, c'est un exploit, mais alors 99, c'est impossible, hein. Et Dieu, il a fait des promesses. Comme il disait, quand je peux être sûr, il fait une alliance, Il passe au travers des animaux. Et là, il va faire une troisième chose pour garantir que c'est vrai ce qu'il dit. Il va changer le nom d'Abraham. Il s'appelait Abraham et lui dit, je vais te baptiser avec un nouveau nom, Abraham, père d'une multitude. Et il va changer aussi le nom de Sarah. On va le voir. Il va appeler Sarah et Sarah, princesse, parce qu'il est dit, de toi naîtront des princes et des rois. Oh là, le Seigneur, mais on dirait qu'il connaît pas l'anatomie. Comment Sarah, ma femme, qui longtemps passé la fertilité, elle va donner naissance une postérité, il y aura des rois, des princes issus d'elle. Dieu, il a donné des promesses, il a donné une alliance, il a donné un nom nouveau pour garantir. Et puis encore, il va faire une autre chose. Chapitre 17, on va lire versets 9 et 11. Dieu dit encore à Abraham, toi et tes descendants de génération en génération, vous devrez respecter mon alliance. Voici l'obligation que je vous impose à laquelle vous vous soumettrez, toi et tes descendants. Quiconque est parmi vous de sexe masculin devra être circoncis. Votre circoncision, c'est le signe de l'alliance établie entre vous et moi. Pour être bien sûr, il va mettre dans leur corps, dans la chair, il va mettre un signe que tout ce qu'il a promis s'accomplira, que c'est la vérité. Et il demande à Abraham, dans la foi, circoncis tes enfants et tous les esclaves que tu as. Moi, dire Seigneur, j'ai attendu beaucoup de temps, je vois pas trop de choses venir. Maintenant, tu me demandes de circoncire mes mâles dans ma propriété, comme un signe visible de cette alliance que j'ai juste, je peux en jouir par la foi. Et nous, je sais pas ce que tu aurais fait, mais on lit quelle a été la réponse d'Abraham, verset 22. Quand Dieu eut fini de parler, Abraham le quitta. Il prit alors son fils Ismaël, tous ses esclaves, ceux nés chez lui, tous ceux qu'il avait achetés, c'est-à-dire tous les hommes de sa maison, et il les circoncis le jour même, comme Dieu le lui avait ordonné. C'est-à-dire, Abraham, qui a 99 ans, il continue, et il le montre par la circoncision, de croire que ce qui lui a été promis quand il avait 75 ans, ces promesses incroyables que la grâce a données dans sa vie, elles se réaliseront. Il persévère dans la confiance. Et on arrive, chapitre 18. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit trois hommes qui se tenaient non loin de lui, de l'entrée de la tente. Il se précipita à leur rencontre, il s'incline à terre et il les invite à manger. Verset 8. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé, du lait frais. Ils mangèrent et tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Les visiteurs demandèrent, « Où est ta femme Sarah ?»« Dans la tente, » répondit-il. Et l'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Ça fait belle lurette qu'il avait promis. Plus de 25 ans qu'il attend. Et là, il a 99 ans, sa femme, elle est usée, et il lui dit, « L'année prochaine, tu auras un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux, et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, maintenant, je suis usée, mon mari c'est un vieillard, le temps du plaisir est passé. Le Seigneur demanda alors à Abraham, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Moi je vous dis, cette histoire, c'est une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue. Un gars, un petit gars, avec sa femme, bon d'accord, il a un petit souci de stérilité, mais il a une vie pépère, une vie tranquille, normale, comme vous, un bas. Il a des hauts et des bas, des tricheurs, des bonnes choses. Et tout d'un coup, la grâce s'invite chez lui. Mais un truc de dingue! Un truc de dingue! Un truc de fou! Je vous promets, lisez les trucs, c'est incroyable. La grâce des balles chez lui, et plein de promesses lui sont faites. Un jour, la grâce s'est invitée chez un homme appelé Abraham et chez une femme stérile nommée Sarai. On pourrait faire ça à un article de journal. Elle est venue, la grâce, non pas comme un salaire, non pas comme une récompense pour des mérites exceptionnels. On a vu qu'Abraham et Sarai étaient des gens comme nous, avec des hauts, des bas, du bon et du mal. Mais la grâce s'est invitée chez eux. Elle a ouvert son sac et elle dit, regarde Abraham, regarde Sarai, tous ces trésors, ce sont pour vous. Et là, la grâce de Dieu met devant les yeux de ce couple les promesses les plus folles, les plus inattendues qui soient. Certaines sont pour bientôt, d'autres sont beaucoup plus tard, même après leur mort. Et Abraham, tant bien que mal, a cru dans ce crazy love, dans cette histoire de fou, cet amour fou qui vient vers lui, il l'a cru. Et il est dit que cela lui a été compté à justice. C'est-à-dire, c'est pas la base de sur ses mérites, c'est la face que Dieu a trouvé un homme qui osait croire dans des choses incroyables. Il a dû croire dans des choses humainement impossibles. Il crut et cela lui fut compté pour justice. Et vous savez quoi? Le mieux dans cette histoire de fou, c'est que toutes les promesses faites à Abraham se sont accomplies. Abraham est devenu le père d'une grande nation qui s'appelle Israël. Ça s'est accompli. 2, Abraham a été béni. Est-ce qu'il a été béni? Mais au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, de tout ce qu'il pouvait imaginer, ce bonhomme, il a été béni. 3, son nom est devenu célèbre. Il s'appelle Abraham. Qui dans le monde ne connaît pas Abraham? Même chez les musulmans, on connaît Abraham. C'est un truc de fou, cette histoire. Il est devenu une bénédiction pour les autres. Toutes les nations de la terre ont été bénies au travers de lui. On pourrait dire là, le Seigneur, t'en rajoute un peu. Vrai ou pas vrai? Vrai! La loi, les prophètes, le Messie Jésus, le salut vient de qui? Vient des Juifs! La postérité d'Abraham! Une histoire de dingue, Seigneur! La 5e promesse, le pays de Canaan, il appartient à qui? Aux descendants d'Abraham. 6e promesse, ta postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Eh bien, la postérité physique d'Abraham et la postérité spirituelle d'Abraham est si nombreuse aujourd'hui que je te défie de pouvoir la compter. Dans le ciel, il est dit que la postérité spirituelle d'Abraham, je vis dans le ciel une foule si nombreuse que personne ne pouvait compter. C'est la foule des croyants. C'est ceux dont il est l'ancêtre, l'ancêtre spirituel. Alors on me dit, pasteur, pourquoi tu nous racontes ça ce matin? Est-ce qu'il y a un message pour nous ce matin? Oh que oui, il y a un message pour moi. Oh que oui, il y a un message pour toi dans ce message ce matin. C'est quoi le message? Je voudrais que tu viennes à Romains, Romains chapitre 4. Écoute de tout ton cœur. Romains chapitre 4. Je lis le verset 16. Abraham, c'est notre père à tous. Verset 17, comme le déclare l'Écriture, j'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui rend la vie aux morts, qui fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et il a espéré alors que tout espoir semblait vain. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain. Et Abraham est devenu le père des croyants, de ceux qui croient comme lui, même si tout espoir semble vain, il a été habité par la foi, nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham, parce que nous aussi nous croyons. Amen. Verset 22, voilà pourquoi il est dit d'Abraham, que à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Juste pas parce qu'il était mieux que les autres, parce qu'il avait une bravoure particulière, mais parce qu'il avait la foi, il a été considéré comme juste. Verset 23. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Dis à ton voisin, ces mots n'ont pas été écrits pour lui seul. Parce que verset 24, il écrit, ils ont été écrits aussi pour nous. Dis à ton voisin, ils ont été écrits aussi pour nous. Qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en Dieu qui a ramené d'entre les morts Jésus, notre Seigneur. Qui ce matin croit que Dieu a ramené Jésus d'entre les morts? Qui le croit ce matin? Donc tu es un croyant comme Abraham. Et ce qu'on vient de lire ici ce matin n'est pas juste pour Abraham, mais aussi pour nous qui croyons que Dieu a ramené Jésus d'entre les morts. Dieu nous rend juste ce matin. Dieu ce matin nous bénit, non pas à cause de nos œuvres, sur la base de nos œuvres, sur la base de notre foi, comme pour Abraham. Et il est dit, verset 25, Dieu a livré Jésus à la mort à cause de nos péchés, il l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. Qui croit que Jésus a été livré à la croix pour payer pour nos péchés? Eh bien, ce qu'on a lu ce matin, c'est écrit pour nous. Tu as la foi. Eh bien, cette foi t'est comptée à justice. Quel que soit ton pédigré, quel que soit ton passé, ne regarde pas à toi.
Dieu voit à ta foi. Il voit que tu crois dans le Sauveur qui a envoyé. Il voit que tu crois dans sa mort. Eh bien, ta foi est comptée à justice. La grâce. Elle s'est invitée un jour chez moi. Je pourrais vous raconter, vous en savez. Un jour, la grâce s'est invitée chez un homme qui s'appelait un jeune homme, qui avait 18 ans, qui s'appelait Jean-François Goth. Mais un jour, la grâce s'est invitée chez toi, parce que je pense que si la grâce n'était pas invitée, tu ne serais pas là. Et tu n'avais rien pour l'attirer, cette grâce. Tu n'avais rien pour la mériter. Tu étais un Abraham comme les autres, comme ordinaire, un homme ordinaire, avec des hauts et des bas, des défauts et des qualités. Et cette grâce a frappé à ta porte. Elle a frappé à ta porte. Qui peut dire qu'un jour la grâce a frappé à sa porte? Oui. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a ouvert son sac. Elle a ouvert son sac. Et il était écrit dans le sac de la grâce. Dieu t'aime. Jésus a versé son sang sur la croix pour toi. Je veux conclure une alliance éternelle avec toi, scellée par le baptême. Je te donnerai les nations et le paradis en héritage. Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je te donnerai un nom nouveau parce que c'est écrit dans l'Apocalypse. J'essuierai toutes larmes de tes yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de douleur. Les choses anciennes auront disparu. La grâce s'est invitée. Elle nous dit, voilà le projet de Dieu pour toi. Et moi, comme Abraham, j'ai cru et je crois. Ce matin, je crois, même si le monde crache sur ma foi, je crois dans ses promesses. Et ma foi m'est comptée pour justice. Comme pour Abraham, c'est par la grâce de Dieu que j'ai été béni. Tu es béni par la grâce de Dieu au moyen de ta foi. Ce salut, ces promesses, ces cadeaux, l'héritage qui nous attend, c'est pas un salaire pour tes mérites, pour tes prouesses. C'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est pas le résultat de tes efforts afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens chapitre 2. Je suis ce matin choisi comme Abraham et Sarai. Je suis aimé, je suis béni, c'est l'évangile. Et comme tu disais Pierre-Nicolas, c'est presque trop beau pour que j'arrive à y croire pleinement. Et pourtant comme Abraham, j'y crois. Et je sais, comme pour Abraham, que toutes les promesses de Dieu pour moi s'accompliront. Certaines s'accompliront ici-bas, d'autres s'accompliront dans l'éternité. Et si parfois, le diable vient me dire, t'es sûr? Est-ce que tu t'es pas trompé? Est-ce que c'est pas un mirage tout ça? Est-ce qu'on t'a pas un petit peu drogué avec toutes ces promesses? Si l'attente paraît longue, je voudrais vous lire deux textes que je veux serrer dans mon cœur. Chapitre 8, Romains, il est dit, j'estime que nos souffrances du temps présent, verset 18, ne sont pas comparables à la gloire qui nous sera révélée. Oui, c'est pas facile d'être chrétien. Oui, c'est pas facile de marcher dans un monde qui est perverti, de garder son intégrité. C'est pas facile. Oui, on peut être persécuté à cause de notre foi. Mais j'estime que mes souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui m'est réservée. La bénédiction de Dieu, j'en ai goûté qu'un tout petit bout, quelques miettes. Le banquet, il est encore devant nous. Et il est dit, verset 22, nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit, souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création, mais nous. Nous souffrons qui avons déjà l'Esprit Saint comme premier part des dons de Dieu. Nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Oui, oui mon frère, oui ma sœur, je gémis. Oui, des fois je me réveille et je suis triste par les choses de ce monde. Oui, je me réveille et j'aspire à être totalement délivré de ce mal, de ce péché, de ces souffrances. Mais il est dit que les promesses de Dieu s'accompliront. J'en ai la preuve parce qu'il a déposé en moi les arts qui garantissent que cela s'accomplira. Et César s'appelle le Saint-Esprit qui habite en moi. Il garantit que tout ce que Dieu a promis, il l'accordera. Nous le recevrons. Et il est dit ici, nous gémissons intérieurement en attendant que Dieu nous fasse de nous ses enfants, nous accorde une délivrance totale. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce qu'on espère, c'est plus de l'espérance. Qui espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. J'attends avec patience. Il est écrit, heureux les doux, ils hériteront la terre. Je sais qu'un jour le Seigneur dira, viens, j'ai préparé tout cela pour toi en héritage. Je sais, je le crois, que Dieu ne m'a pas trompé quand la grâce s'est invitée et m'a montré qu'est-ce qu'il y avait dans son sac. Je sais que tout ça, ce sont pas des promesses électorales, c'est ce que Dieu accomplira si je crois. Et je voudrais terminer avec un encouragement, aussi un avertissement. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 12, il est écrit « Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. » Prenez garde, après avoir vu dans le sac, après avoir regardé dans le sac, après avoir, comme les visiteurs sont venus voir Abraham, quand la grâce de Dieu est venue chez toi, qu'elle t'a dit « Voici mon plan, voici mes promesses. » Que tout d'un coup, ton cœur devienne méchant et incrédule, au point de te détourner de ce plan d'amour, au point de refuser ce plan d'amour, au point de le remettre en question, dire « Non, Dieu, je n'y crois plus. Dieu, merci, mais tout ça, c'est de la rigolade. Moi, je vois les choses en face. Et Seigneur, j'en ai marre d'attendre. Et moi, je veux plus attendre ce que tu promets. Je veux m'orienter autrement. Prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le pousse à se détourner de ce Dieu vivant. » Et je vais vous dire une chose. C'est une histoire de dingue. L'amour de Dieu, c'est une histoire de fou. Il y a un livre écrit par Cheyenne, je me rappelle plus comment ça s'appelle, qui fait beaucoup succès dans le monde aujourd'hui, il s'appelle Crazy Love. Un amour complètement fou. Et il raconte, en fait, que c'est comme pour Abraham. Comment ça se fait qu'un jour Dieu vient dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il s'approche? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il nous dise tant de merveilles? Et puis il nous les dit, et puis il dit, regarde, c'est pour toi, adhère par la foi. C'est une histoire de fou, parce que les promesses de Dieu, aujourd'hui peut-être tu les vois pas vraiment, mais un jour quand tu seras dans la gloire, tu diras, mais c'est incroyable. C'est plus grand que le Canaan que j'y vais imaginer. Le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est bien au-delà de tout ce que je pouvais espérer. La gloire qui nous attend, elle est déjà présente en une certaine mesure, mais nous savons qu'elle sera pleinement libéré, le jour où Dieu révélera ses enfants. Aujourd'hui, on te crache dessus. Aujourd'hui, on se moque de toi. Que fait ton Dieu? Un jour, Dieu révélera ses enfants. Et là, les mondes te jalousera. Le monde dira, mais ils avaient raison. C'était pas des illuminés. Dieu leur était apparu. Il avait fait des promesses et ils ont cru dans ces promesses. Et maintenant, ils entrent dans leur héritage. Et les gens pleureront, grinceront des dents. Parce que Dieu leur a venu à eux, il a ouvert son sac, et les gens disent, Dieu, non merci, tu peux passer au suivant. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment t'adorer. Seigneur, il n'y a pas de mots, Seigneur, pour comprendre comment nous pécheurs, nous qui méritons juste ta colère, nous qui sommes comme Abraham, des gros tricheurs, des menteurs, des égoïstes, et puis que pourtant, Seigneur, tu nous aimes d'une manière folle. Et tu veux nous bénir, tu veux notre bonheur, tu veux nous faire prospérer, Seigneur. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous voulons pas regarder à nos œuvres, nous voulons pas regarder à notre dignité personnelle. Nous voulons, Seigneur, regarder dans ce sac et nous voulons dire, Seigneur, je crois. Je crois dans tes promesses et je les serre dans mon cœur. Et aide-moi, Seigneur, à ne jamais avoir un cœur incrédule et méchant qui me détourne de ta grâce. Oh, nous te bénissons, Seigneur.